Alors, pour la dernière séquence de ce colloque, nous avons le très grand privilège d'accueillir parmi nous Son Excellence Madame Hasmik Tolmadjian, ambassadrice de la République d'Arménie auprès des Nations Unies et de la Berne fédérale. Je l'invite à monter sur scène pour présider notre dernière séquence.
Chers amis, c'est avec une immense joie que je suis parmi vous aujourd'hui à l'occasion de ce premier colloque consacré aux philosophes genevois face aux drames arméniens. Je souhaite, au nom du gouvernement arménien, de saluer et remercier très chaleureusement les organisateurs et les intervenants de cette première rencontre, rencontre historique, qui a pour objectif de faire mieux connaître cette très belle page d'histoire d'amitié entre les peuples arméniens et suisses. Le combat de ces grands philanthropes genevois pour la dignité, la justice et la mémoire résonne encore avec plus de force aujourd'hui, en ces temps complexes, et qui rappelle aussi que l'histoire ne se résume pas seulement à la souffrance du peuple, mais aussi à l'élan de solidarité et de fraternité de ceux qui ont tendu la main à mon peuple au moment les plus difficiles de son histoire. Ce colloque est bien plus qu'un moment de réflexion historique. C'est un acte de reconnaissance. C'est un acte de devoir de mémoire. Aussi, un acte de pont entre générations. Aujourd'hui, en faisant revivre ces parcours exceptionnels des philanthropes genevois, nous honorons à la fois le passé et l'avenir. Car nous consolidons ainsi aussi les liens d'amitié forts qui unissent l'Arménie et la Suisse, et nous affirmons ensemble la force de solidarité, la force de fraternité face aux épreuves. Donc je vous remercie beaucoup de cet honneur qui m'est fait aujourd'hui de présider cette dernière séquence de ce colloque. Et c'est avec un immense plaisir que je souhaiterais inviter ici Madame Coraline Fringuian pour une intervention. Qui représentera la vie et l'œuvre du peintre Sarkis Khatchaturian. Madame Coraline Fringuian est une personnalité genevoise dont le parcours conjugue engagement, élégance et esprit d'initiative. Issue d'une famille profondément ancrée dans l'histoire et les traditions philanthropiques et arménophiles de la cité, elle est descendante de Gustave Ador. Elle a suivi ses études au Collège Calvin, puis aux hautes études internationales de Genève. Madame Coraline Fringuian entame sa carrière dans le secteur financier, notamment à New York, avant de rejoindre UBS, à son retour en Suisse, où elle œuvre pendant une décennie. Installée par la suite à Londres pour accompagner son époux, elle y réside une dizaine d'années, et puis, de retour à Genève, elle amorce une nouvelle étape de son parcours en fondant CEMAGE, une agence spécialisée dans la décoration et l'aménagement d'espaces de vie et de travail. Madame Fringuian incarne un engagement civique et culturel fort, sensible notamment à la cause arménienne, à laquelle elle est personnellement attachée, aussi grâce à son mariage avec M. Christian Fringuian, d'origine arménienne. Donc c'est sans tarder et avec une immense joie que j'invite Mme Coraline Fringuian de prendre la parole. Merci.
Mesdames et messieurs, j'aimerais vous inviter à parler d'un peintre très touchant, un globe-trotteur au berceau arménien qui, malgré un parcours éblouissant, reste très peu connu du grand public. Sarkis Khatchaturian, excusez mon accent, si jamais c'est faux. Ça commence bien, les versions varient déjà entre le 9 et le 15 août pour sa naissance. En 1886, à Malat, l'actuelle Turquie, dans une famille arménienne. Son père, Sarkis, le père, décède avant sa naissance, 3 mois, et le futur peintre grandit avec sa mère, Vardoui, et son frère, Garabed. Il a reçu son éducation primaire à la mission protestante de Malatya, puis, sur recommandation du directeur, qui détecte très tôt son talent, a poursuivi ses études secondaires au collège Sana Sarian à Karin, aujourd'hui Erzurum, où il a développé son intérêt pour les arts. Il va y enseigner un moment, et à Ain Tab, puis à Alep, tout en décorant des hôtels et intérieurs d'églises. Par la suite, il a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Rome de 1908 à 1911, où son talent le distingue déjà des autres. Il y reçut une bourse également. Inscrit ensuite à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris de 1912 à 1914, recevant un premier prix dans la catégorie études documentaires. Il a également étudié la pédagogie des arts à Genève et approfondi ses connaissances en restaurant des fresques à Munich, Berlin, Dresde et à Vienne. C'est une formation entre l'Orient et l'Occident qui a permis à Khatchatourian de maîtriser les techniques artistiques européennes tout en restant profondément attaché à son héritage arménien. Son éducation cosmopolite et son exil forcé l'ont façonné en tant que peintre voyageur, un passeur de mémoire avec ses restaurations d'œuvres anciennes. Son père est cordonnier, mais visiblement ce n'est pas dans les chaussures que Sarkis voulait laisser son empreinte. L'artiste arménien incarne un esprit cosmopolite et puise dans trois grandes cultures tout au long de sa carrière. L'arménienne, l'iranienne et l'indienne. On découle ainsi trois phases dans son travail. La première, de 1915 à 1929, ce sont ses premiers travaux qui évoquent la tragédie des Arméniens, exil et déportation, dans un style influencé par l'Europe et l'émergence de l'école de la peinture arménienne. La deuxième période se situe entre 1930 et 1937. Elle s'inspire ensuite de la culture perse, notamment des palais de la dynastie Safafide, auxquels ils redonnent leur éclat. La dernière période, 1938 à 1947, en fin de vie, il met en valeur l'art pictural indien ancien, notamment celui enfoui dans les grottes bouddhistes. Je vais revenir sur la première période, entre 1915 et 1929. L'Arménie comme mémoire vivante. La Première Guerre mondiale éclate. Et Sarkis, au lieu de fuir, reste pour peindre l'indicible. Il commence à Tiflis sa série American Paintings, des aquarelles dédiées aux réfugiés arméniens. Il parcourt le Caucase et les monastères malgré les épidémies et les dangers. Témoignant de souffrances vécues par son peuple, mais aussi par sa famille, sa mère et son frère, qui en furent victimes, il immortalise la détresse des réfugiés, des orphelins et des sans-abri, dans une œuvre profondément marquée par le martyr. Durant ses voyages, il n'oublie pas également de peindre des scènes rurales, festives et architecturales. Il cherche à capturer la force, l'humanité et parfois l'humour dans les visages. La couleur vive et lumineuse est un art qui demeura son grand moyen d'expression. Ses étendues de couleurs éblouissantes révèlent l'Arménien qu'il est. Des vives teintes des costumes arméniens aux couleurs éblouissantes de la nature exposées au soleil brûlant. C'est en 1918 qu'il épouse sa femme Vava et ensemble, ils s'installent à Vienne, ça marche encore ? Ouais. Capitale impériale. Petit intermède et petite parenthèse sur Madame. Madame Sarkis, qui est née en Turquie, épouse Sarkis à Tiflis en 1918, après l'avoir rencontré à Istanbul en 1913. Pendant 22 ans, elle accompagne son mari, reste en retrait, étudiant la musique et travaillant comme modèle. Elle a même posé pour un certain Henri Matisse. Elle reste dans l'ombre de son mari, encore une fois. Et ce n'est qu'après la guerre et la mort de son mari qu'elle entame sa propre carrière artistique. Dès 1945, elle est remarquée à New York et rencontre le succès à partir de 1949. Ses expositions aux États-Unis, Fresno, Détroit et Los Angeles, sont saluées chaudement par la critique. À partir de 1950, elle expose également à Paris, au Caire, à Alexandrie, au Liban et à Istanbul. Son style poétique est très féminin, mais en avant des femmes, des fleurs, dans des tons profonds et colorés, avec une touche orientale et une grande délicatesse. Tout ce travail lui vaut une reconnaissance internationale. Je ferai une deuxième parenthèse par rapport à un côté qui a valu le surnom d'artiste facteur pour Sarkis, car c'est aussi dans les années 1920 qu'en Arménie, il est sollicité pour dessiner des timbres. Oui, il a mis des sirènes, des aigles, des cavaliers et des femmes filant le rouet sur des petits rectangles de 3 cm. Pourquoi ? Parce que selon lui, un timbre mérite aussi d'être une œuvre d'art. Il y glisse même ses initiales secrètes dessus pour éviter les contrefaçons. En 1921, il quitte Tiflis pour Erevan avec sa femme, Vava, et expose avec succès. Il fréquente de nombreux artistes arméniens et participe à une exposition au Caire, puis s'installe à Vienne et à Alexandrie. C'est à Vienne qu'il expose pour une première fois 180 pièces, peintures à l'huile, aquarelles et gouache. L'exposition est un feu d'artifice, il séduit par son style métissé, arménien de cœur, oriental d'âme, européen de technique. Il rejoint aussi ensuite Paris, où il continue de peindre les réfugiés et expose à la galerie Tronchet. Le collectionneur Kalouste Gulbekian acquiert plusieurs de ses œuvres. En 1926, installé à Paris, il s'entoure d'artistes de la diaspora. Dès 1928, il se consacre entièrement à la peinture et voyage en Europe, Anvers, Amsterdam, Oslo. La liste est longue, où il devient reconnu pour ses paysages arméniens. Ensuite, nous arrivons à la deuxième période, de 1930 à 1937, l'Iran, les palais et la poussière d'or. En 1930, encouragé par l'ambassadeur d'Iran à Londres, il se rend en Iran pour découvrir les fresques d'Ispahan. Il commence son voyage par Shiraz, visitant les tombeaux des poètes célèbres, avant de s'installer à Djulfa, un quartier arménien d'Ispahan, dans un monastère. Durant 3 ans, il se consacre à la restauration minutieuse des fresques de certains palais, Ali Kwapu, Shechel Sotoun, excusez-moi si je n'ai pas la bonne prononciation, et d'autres sites persans du XVIIe siècle. Grâce à son travail acharné et son souci du détail, il redonne vie à ses œuvres destinées à disparaître. Il crée en même temps un musée arménien local contribuant à la sauvegarde du patrimoine. Ses fresques mêlant couleurs délicates, scènes d'amour, figures féminines, fruits et symboles sont exposées en Europe, Paris, Londres, Berlin, Copenhague, etc., jusqu'en 1937. Il y reçoit une médaille d'argent à l'exposition internationale de Paris, cette année-là. Admiré par des figures telles Matisse, Picasso ou Dufy, il obtient une reconnaissance internationale. On imagine souvent les artistes comme des rêveurs, en quête d'inspiration. Sarkis, lui, se retrouve avec 2 étudiants à gratter des plâtres, jour et nuit, dans des palais en ruine. Mais il redonne vie à ses chefs-d'œuvre, à tel point que le Shah lui décerne le titre honorifique de Cannes. Pas mal pour un peintre de Malataya, non ? Troisième période, 1937 à 1947, l'Inde et la malaria. En cherchant des documents sur les fresques persanes, Khachaturian découvre la peinture murale indienne au Victoria and Albert Museum de Londres. Frappé par la médiocrité des copies existantes, il décide de se rendre en Inde. Grâce à sa renommée, il obtient alors l'autorisation de copier les fresques dans les temples, ce qui débute pour lui une période profondément fascinante. Malgré les conditions extrêmes, maladie, faible lumière, accès difficile, ces copies se distinguent par leur fidélité et élégance, devenant de précieuses ressources pour les chercheurs. Ils parcourent des sites majeurs, Anjata, Bagh, Badami, Kumtaki, Gwalior, et redonnent vie à des fresques du VIe siècle très endommagées. Durant cette période, il ne faut pas s'imaginer d'atelier de travail confortable. Ils travaillent dans l'humidité, l'humidité, la pénombre au milieu de chauves-souris. Il y attrape la malaria, mais continue à peindre avec fièvre, littéralement et artistiquement. En Inde, certains archéologues locaux n'avaient jamais mis les pieds dans ces grottes. C'est donc Sarkis l'Arménien qui leur fait découvrir leur propre patrimoine. Ces reproductions, alliant justesse, couleur vive et raffinement du trait, permettent au public occidental de découvrir pour la première fois ces chefs-d'œuvre du panthéon indien et bouddhiste. Grâce à son succès, Sarkis est invité à plusieurs grandes expositions, notamment à Londres en 1940. Mais la guerre bouleverse ses projets. Il poursuit un périple en Inde et à Ceylan, à Bombay, Mysore ou encore Travancore. Il reçoit des commandes prestigieuses, notamment du Maharaja de Tiruchirappalli. Merci. Il découvre des traditions locales et devient aussi archéologue, mettant à jour des fresques inconnues. Il retourne à Paris en 1939, puis s'installe à New York avec son épouse, où ses œuvres sont exposées dans les musées majeurs, Boston, Chicago, Washington. En 1946, il retourne à Paris pour préparer une exposition au musée Guimet, mais tombe gravement malade. Il meurt d'une pneumonie en mars 1947, des suites de la malaria contractée en Inde, et laisse derrière lui une œuvre colossale. Pourtant, son nom est resté très méconnu du grand public. Peut-être parce qu'il a passé sa vie à mettre en lumière les cultures des autres et non la sienne. Alors, sur le tableau qui nous intéresse aujourd'hui. Le tableau est signé de Sarkis Khachaturian et porte la date de 1913. Il représente un homme âgé, assis, portant un livre ouvert, avec des groupes de personnes, notamment des femmes et des enfants, en habit traditionnel arménien. L'inscription visible sur la première image suggère qu'il s'agit d'un hommage à un bienfaiteur des orphelins arméniens. Et voilà. Lorsqu'on m'a proposé de présenter ce tableau aujourd'hui, je dois avouer qu'un élément a profondément facilité notre recherche. L'absence totale d'informations sur l'œuvre qui semblait tout bonnement inexistante. Je reconnais bien là l'habileté de notre président, M. Roger Durand. Et pourtant, en fouillant un peu, certaines remarques finissent par émerger de ce mystérieux tableau. La première concerne la date. Il est daté de 1913, ce qui pourrait surprendre si nous n'avions pas écouté les orateurs précédents. Elle précède le début officiel du génocide arménien de 2 ans, qui commence officiellement en 1915. Mais comme on l'a vu, les violences contre les Arméniens de l'Empire ottoman étaient déjà bien présentes, et ce depuis plusieurs décennies. Dès les massacres hamidiens entre 1894 et 1896, où 100 000 et 300 personnes arméniennes, d'origine arménienne sont tuées, mais aussi plus tard, en 1909, à Adana, qui a fait jusqu'à 30 000 victimes. Je dis notamment ceux de Adana parce que la ville native de Sarkis Khachaturian est en Malaitaya. Elle se trouve seulement à 200 km d'Adana, ce qui le place en première ligne de ces bouleversements. Donc ce tableau de 1913 pourrait constituer une preuve des conditions de vie déjà très précaires des Arméniens ottomans, marqué par les premières vagues du déplacement forcé et des persécutions. Mais il pourrait donner aussi aux peintres une qualité de témoin qui aurait cherché à alerter très rapidement sur la dégradation de la situation de son peuple. Si ce tableau était destiné à Léopold de Favre, en Suisse, cela suggère qu'il avait conscience de la nécessité d'un soutien international 2 ans avant le déclenchement officiel du génocide. La deuxième interprétation concerne aussi la dédicace. Quels liens unissent le peintre, la Suisse et Léopold de Favre? Léopold de Favre, comme on l'a vu, était une figure intellectuelle et artistique notable de Genève, reconnue comme mécène des arts. spécialisé en indianisme. Il fit ses études à l'Université de Genève, puis à Paris, Londres et Göttingen. Bien qu'aucune source directe ne confirme une relation personnelle entre eux, plusieurs éléments permettent d'imaginer une connexion plausible, fondée sur un intérêt commun pour les cultures orientales. On a vu que Léopold Favre a fait son premier voyage à Constantinople en 1897, mais le peintre n'avait alors qu'11 ans. Il y retourna en 1903 et 1909, ce qui donnait un âge de 20, 21, 22, 23 ans pour le peintre. Par contre, entre 1908 et 1914, Khatchatourian séjourne en Suisse et en Allemagne pour ses études artistiques. Il aurait donc pu croiser la route de Favre, alors actif dans des cercles culturels genevois. En tant que mécène et amateur d'art oriental, Favre aurait pu s'intéresser à ce jeune artiste arménien dont le style intégrait déjà une sensibilité pour l'Orient. Une rencontre à Genève ou par l'intermédiaire d'un cercle artistique commun n'est donc pas à exclure. Par ailleurs, le peintre parle français, ce qui aurait pu faciliter les échanges avec un érudit comme Favre. Le peintre revenait alors de France, nouvellement diplômé, et incarnait cette figure d'oriental occidentalisé, un artiste formé à l'européenne, mais nourri par les traditions d'Orient, tout à fait dans l'esprit des intérêts de Léopold de Favre. En conclusion, mesdames et messieurs, Sarkis Khatchatourian est bien plus qu'un peintre. C'est un pont entre les civilisations, un reporter de l'âme, un artiste ethnologue, un restaurateur de mémoire. À l'heure où les frontières se crispent, son œuvre nous rappelle une chose essentielle, que la culture voyage mieux que les armes et que les couleurs unissent là où les mots échouent. Ainsi, si vous croisez un timbre étrange, une fresque indienne à Paris ou un tableau persan au détour d'un musée, regardez bien. Derrière les couleurs, il y a peut-être la main de Sarkis. On vous remercie.
Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter Mme Leonard Christensen-Gerbazian de prendre la parole. Mme Christensen présentera l'action suisse en faveur des orphelins arméniens. Mme Leonard Christensen-Gerbazian est née à Genève, de parents arméniens, rescapés du génocide et accueillie dans le foyer arménien. Marquée dès l'enfance par ses mouvements fondatrices, elle poursuit une formation académique en lettres aux universités de Genève et de Bonn, obtenant une licence en français, allemand et histoire. Elle débute sa carrière dans l'enseignement au cycle d'orientation, puis s'installe au Danemark, où elle vit durant 13 ans. À son retour à Genève en 1986, elle enseigne les langues au sein de l'École supérieure de commerce jusqu'à sa retraite en 2009.
J'ai donné la clé.
Madame Christensen-Gerbazian continue à s'impliquer activement dans la vie citoyenne, notamment par l'enseignement du français aux requérants d'asile et aux réfugiés, perpétuant ainsi une tradition d'accueil, de transmission et d'engagement humaniste. Je vous remercie et c'est avec plaisir que je vous tends le micro.
Merci. Merci à toutes. Je crois que je vais me passer de micro. Est-ce que ça peut aller comme ça? Je vais élever la voix. Vous m'entendez? Non? Alors, je vais essayer avec le micro.
Tu me dis oui, quand je suis.
Oui. Oh là là. Merci. Mon propos, maintenant, s'inscrit au fond dans la suite de tout ce que vous avez entendu, mais j'aurai un ton un peu plus concret, plus personnel. Du message que j'aimerais vous transmettre. Donc, le titre qu'on a donné à mon intervention, c'est donc l'action en faveur des réfugiés, des enfants, surtout des enfants arméniens. Ça va ?
Dans le mot « action », on a « aide » et « accueil », on en parlera. J'aime beaucoup ce terme d'action, parce que tout ce qu'on a vu, c'était beaucoup de discours, de la théorie, bien sûr, très important. Mais dans ce mot « action », il y a la réalisation d'une intention, d'une volonté d'agir. Et c'est l'œuvre de toute une vie. Donc, qui est au centre de cette œuvre, c'est le pasteur Anthony Kraft Bonnard. On peut projeter sa photo. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce regard? Pour moi, il y a une immense bienveillance, une grande bonté, mais je pense aussi cette détermination, cette ténacité, cette volonté d'agir. C'était un... Je vous parlerai tout à l'heure donc brièvement de sa vie. Donc, c'est un homme de foi, inébranlable, dans la réalisation de son action en faveur des enfants qu'il a accueillis dans les années 20. On va y revenir. Et j'insiste beaucoup, ça c'est pas venu comme ça par hasard. Le pasteur Kraft Bonnard fait partie de cette lignée de philanthropes genevois, mais enfin lui était vaudois, de Suisse, disons. Et il fait partie d'une génération plus jeune que Louis Favre, mais il est vraiment dans cette lignée. Vous l'avez entendu au cours de cette journée, donc ce mouvement extraordinaire de sympathie à l'égard de l'Arménie, de ses souffrances, date de la fin du 19e, des années 1894-96, et c'est un mouvement arménophile qui continue. Donc, j'insiste beaucoup, on peut dire que Anthony Kraft Bonnard est l'héritier direct de cette lignée de philanthropes. Et Roger nous a parlé de Léopold Favre. Lorsque Léopold Favre meurt le 4 avril 1920, on peut dire que Kraft Bonnard perd son unique soutien moral et financier. Les dernières paroles de Louis Favre qui nous sont rapportées sont cette œuvre. J'insiste, œuvre, action, doit être poursuivie, mais le sera sans moi. Ces paroles s'adressent directement à Anthony Kraft Bonnard. Avant de parler de son œuvre, je pense qu'il est important de rappeler très très rapidement, puisqu'on en a déjà parlé, de la situation géopolitique dans les années 20, chaotique, et puis on a le fameux traité de Lausanne qui anéantit tous les espoirs de la question arménienne, bien sûr. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais simplement pour dire que dans ces années-là, alors que tout semble perdu, Anthony Kraft Bonnard garde cet espoir. Non, la question arménienne n'était pas réglée pour lui. Il fallait aller plus loin. Donc c'est un engagement total, absolu, de toute une vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'Arménie n'existe plus. On l'a vu aussi, les hommes sont exterminés. Il y a des pauvres mères qui ne savent plus très bien comment s'en sortir. Mais il reste des enfants. Et on l'a vu, pourquoi tous ces enfants? Mais il y en a des milliers et des milliers. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, Anthony Kraft Bonnard n'a pas cessé d'écrire pour alerter le monde sur cette question, notamment dans un écrit qui s'intitule « L'heure de l'Arménie » en 1922. Il multiplie les déclarations. Mais voilà, on ne va pas s'arrêter aux paroles, aux grands discours. On passe aux actions. Donc, qui est Anthony Kraft Bonnard? On a parlé des philanthropes genevois, et bien lui est vaudois. Il est né à Aigle le 15 juin 1869, une génération donc plus jeune que ces trois philanthropes dont on a parlé. Et c'est important, il est le quatrième d'une fratrie de huit enfants. Son père est pharmacien dans cette petite localité vaudoise, d'un milieu cultivé, engagé. Et il fait ses études secondaires à Aigle et puis il fera des études de théologie protestante, bien sûr, à Lausanne, où il rencontre sa future femme, Hélène Bonnard, qui sera pour lui un soutien indéfectible. D'ailleurs, vous avez remarqué, il associe le nom de sa femme, Bonnard, à son propre nom. Il sera Monsieur le pasteur Kraft Bonnard. Hélène Bonnard était elle-même fille de pasteur. Vous voyez, le milieu. Voilà. Le couple Bonnard aura quatre enfants, tous les quatre. Impliqués aussi dans des causes humanitaires, sociales, éducatives, etc., qui vont beaucoup le soutenir. Il avait d'ailleurs envoyé deux de ses enfants à Marseille accueillir des réfugiés, des enfants. Donc, dans un premier temps, comme d'autres philanthropes, Anthony Kraft Bonnard veut agir sur place. Mais comme on l'a dit, sur place, c'est un petit peu compliqué. On assiste à l'exode de toutes ces populations. Et puis les événements de 1915 vont tout précipiter. Alors en 1921, il propose au comité central la création déjà d'un foyer arménien qui accueillerait les réfugiés qui commencent déjà à affluer. Toutes les années 20, il y a cet afflux. Donc l'association Le Foyer Arménien est née le 21 juin 1921 grâce aux fonds, aux donations et notamment de Léopold Favre. Il réussit à acheter une maison à Beugnin et puis deux ou trois autres maisons, des corps de ferme qui serviront à l'accueil de ses enfants. Et les premiers réfugiés arrivent à partir de 1922. D'ailleurs, ce foyer arménien perdure jusqu'à aujourd'hui. On en parlera peut-être. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de l'accueil de ces enfants. Et là, c'est vrai qu'après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, on finit par perdre espoir. Hein. C'est plutôt désespérant, c'est triste. Eh bien non, je vais vous donner une lueur d'espoir dans un monde d'inhumanité, comme on le connaît aussi aujourd'hui. Et on arrive au cœur de notre sujet, donc l'accueil. D'ailleurs, en observant la liste des écrits, des publications d'Anthony Kraft Bonnard, j'ai vu qu'il y avait un article qu'il avait intitulé, et ça m'a interpellée, « Acta non verba ». C'est exactement ce que j'essaye de vous montrer, des actes et non des paroles. Il y en avait eu beaucoup des paroles, mais aussi des actions. Léopold Favre est allé là-bas plusieurs fois, il a contribué à la création d'orphelinats, etc. Mais toutes ces déclarations à la tribune de la Société des Nations, maintenant c'est bon, ça suffit, il faut des actes. Et voilà, une personne assez extraordinaire. Donc, mon intervention maintenant va prendre une note un tout petit peu plus personnelle, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et c'est vrai que chacun de ces enfants, il y en a eu... Vous savez, je n'aime pas beaucoup les chiffres. Hein. On donne des chiffres, des milliers, des centaines, etc. Mais je pense qu'il y a eu en tout cas entre 140 et 150 enfants accueillis à Beugnin dans les années de 1922 à 1929. chacun a son histoire. Chaque enfant a sa petite histoire. Et cette petite histoire, elle fait partie de la grande histoire. Ce n'est pas les historiens qui me contrarieront, je pense. Je vais vous parler très brièvement, puisque c'est quelque chose qui me touche. C'est l'histoire de mes deux parents. Mais entre 1916, l'année de naissance de mon père, et 1918, l'année de naissance de ma mère, en plein génocide, en pleine première guerre mondiale, et jusqu'en 1926, année de leur arrivée en Suisse, je ne sais pas grand-chose. Mais, bon, des bribes, des petites bribes, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout de même ce tableau. Et je sais que mon père a été recueilli à l'orphelinat de Sivas, donc qui se trouve en Anatolie centrale, plutôt vers l'Est, qui avait été donc financé par Léopold Favre. Et ça, je trouve ça très intéressant. Mais quand ? Peut-être en 1920, peut-être un peu avant, je ne sais pas. Mais peu importe, ça n'ajoute pas grand-chose aux événements. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes dans ces années extrêmement critiques. L'orphelinat de Sivas devra fermer très vite. C'est trop dangereux, surtout dans cette région d'Anatolie. On ferme. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants ? Je crois savoir qu'ils ont été évacués vers Constantinople par la mer. C'était beaucoup plus sûr que par voie terrestre. Par bateau de Trébizond à Constantinople. Et là, on avait encore l'orphelinat de Constantinople, tenu par des Américains, il y avait des Suisses, enfin, vous avez entendu beaucoup d'œuvres humanitaires de différents pays. Et dans cet orphelinat à Constantinople se trouvait ma mère, qui avait peut-être 2 ou 3 ans, je ne sais pas. Voilà. Mais en 1922, même avant ce fameux traité de Lausanne qui a anéanti tous les espoirs, qui a effacé la mémoire des Arméniens, tous les orphelinats qui se trouvaient en Turquie ont dû être évacués. Ça, c'est l'exode total. Alors, où aller ? Je sais que beaucoup de ces enfants peut-être qu'ils avaient des parents, de la parenté en Syrie, en Égypte, mais la plupart ont été évacués vers la Grèce. Donc, nous sommes en Grèce, à peu près en 1922, justement. Il y a des milliers d'enfants. Là, je ne me permets pas non plus d'avancer des chiffres. Mais j'ai vu 7000, je ne sais pas, peu importe, des milliers d'enfants orphelins dans un pays qui souffrait aussi beaucoup de pauvreté. Il y a eu des échanges de population après la guerre gréco-turque. Beaucoup une centaine de milliers de réfugiés grecs qui sont donc retournés en Grèce, la Grèce très pauvre. Et ces enfants ont été ballottés, l'Athènes, Corfou, on en a parlé, Corinthe. Mes parents parlaient aussi des îles, Syra et d'Ipsos, ballottés comme ça. Je sais que, oui, mon père parlait par exemple du sable brûlant sous les pieds nus, il courait dans tous les sens. Vous voyez, des enfants peut-être entre 6 et 10 ans, je ne sais pas, à peu près. Il y avait une soupe de lentilles, pas grand-chose. Beaucoup, beaucoup d'enfants mouraient de malnutrition, de maladies. Donc, ceux qui survivaient étaient les plus solides, effectivement. On se trouve donc dans cette situation, mais mes parents disaient combien les Grecs avaient été gentils, aimables, accueillants dans leur misère. Ça, c'était une grande reconnaissance. J'en retiens beaucoup. Voilà, bon, ça, c'est la période grecque. Et voilà, donc, il faut croire au miracle. Ça s'explique difficilement, mais les miracles existent. D'abord, ils ont survécu à des années d'errance. Et puis, voilà que ce pasteur Anthony Kraft Bonnard, son œuvre a commencé donc en 1922. Ils arrivent à Bonien, ce lieu dont on va parler. Entre 1922 et 1929, il y a 7 arrivées collectives, c'est-à-dire des groupes d'enfants ensemble. Il y a eu aussi des arrivées individuelles, mais voilà, c'était des groupes. Et mes deux parents, quel hasard incroyable, enfin les hasards, pas trop y croire, mais font partie d'un groupe de 20 enfants arrivés, donc 10 garçons, 10 filles. Comment ils ont été choisis, j'en sais rien. Arrivés en Suisse d'Athènes en décembre 1926. C'est là. Voilà. Non, oui, c'est ça, excusez-moi. Voilà, alors on ne voit pas grand-chose, malgré...
Tu veux que j'arrive
mais ça ne fait rien, ce n'est pas grave. Il s'agit d'un passeport, d'un visa collectif pour arriver d'abord en France, puisqu'il fallait passer par Marseille, et puis en Suisse. Alors, vous voyez tout en haut... Peut-être que vous voyez, j'en sais rien, la première photo que vous voyez à gauche, c'est ma mère. Archalouz Yeramian. Alors, il y a le prénom, il y a le nom de famille, et il y a l'âge. On n'avait pas de date de naissance. Les mamans qui avaient déposé leurs enfants dans la misère donnaient donc... disaient peut-être l'enfant est né au printemps, j'en sais rien. Ouais, je savais très bien, mais bon... Printemps, automne, enfin, puis on évaluait l'âge de l'enfant, 2 ans, 3 ans, enfin, voilà. En fait, ma mère avait 8 ans, d'après ce qu'elle me disait, mais là, c'est 9. Elle était originaire de Rodostos, qui se trouve sur la côte occidentale de la Turquie, donc c'était vraiment... Elle se disait européenne, puisqu'elle était à l'est de la Thrace. Si tu vas un petit peu plus haut, on va voir mon père... voilà, en bas, Aram Jambazian. Âge, non, c'est bon. Âge 10 ans, ça joue. Alors lui était d'origine de Terzili, que Garabet connaît. Une
juste
petite
à côté,
localité, un village en Anatolie, à l'est d'Ankara, dans le vilayet de Yozrat, donc non loin de Sivas, enfin. La grand-mère avait réussi à les amener ses enfants à Sivas, de là, je ne sais pas comment, miracle. Donc, ils arrivent. Ah oui, il y a encore quelques... Tu es à l'autre page.
Parce la que page ça, suivante, c'est...
tu veux? Non, à côté de ça, tu le fais tout petit.
Ah ouais, d'accord.
Voilà. Alors là, vous avez une série de tontons. Et à gauche, vous avez Consulat de France et à droite, Confédération Suisse. Et ce qui est assez extraordinaire et que j'ai découvert il y a quelques jours quand Garabed m'a aidé à faire ses photos, il y a quelque chose qui est rajouté au-dessous de Consulat de France, Service des passeports. Bon pour Neumart Yeramian. J'ai vu ça. Plus 19 orphelins. Donc, si on compte les orphelins, ils sont 19. Et puis, on a rajouté ma tante, Novart Yerhamian, dont je porte le prénom, Novart. Et c'était donc la sœur aînée de maman. Et je me souviens maintenant que ma mère disait « Je ne voulais pas partir en Suisse sans ma sœur. » Et peut-être que cette sœur, qui n'était pas beaucoup plus âgée, elle avait peut-être 10 ans, 11 ans, ou même si je ne sais pas, peut-être qu'elle paraissait plus grande, c'est possible. Et elle a insisté, donc je ne savais pas, mais son nom a été rajouté sur ce passeport collectif. Ça m'a... Voilà. Donc il y a la date, c'est le tampon de du consulat suisse d'Athènes. Le tampon date du 23 décembre 1926 et ils arrivent à Benin le jour de Noël, le 25 décembre 1926. Voilà. Oui, je me demande ce qui se passait dans leur tête. D'abord, de laisser d'autres... Mon père, par exemple, va être séparé de son frère et de sa sœur aînée. Ils étaient trop âgés. Il y a des ruptures, il y a des séparations. Pourquoi laisser les autres? Pourquoi nous? Quel miracle! Et la Suisse, qu'est-ce qu'elle représentait dans leur tête? Le paradis, et surtout, je pense, un pays sans guerre. Voilà. Alors, et puis encore une fois, donc chacun avait son histoire, chacun de ses enfants qui se fondaient. Mais ils avaient tous vécu un petit peu, voilà, les mêmes horreurs, les pères assassinés, les mères violées, les mères déportées, et de l'errance, sans aucun cadre, je veux dire, pas de langue, mais ça je vais y revenir. Donc, le voyage se passe dans les cales d'un paquebot d'Athènes à Marseille, et puis en train, Lyon, Genève, et puis un petit train jusqu'à Nyon et à Benin, dans cette fameuse maison que le pasteur Krav Bonnard avait acquise grâce aux fonds, aux donations diverses. Ah oui, on peut faire la photo de groupe. C'est ça, voilà. Donc, c'est l'arrivée de ses enfants. Ce qui est, il y a aussi mon père et ma mère. Voilà, oui.
Voilà.
Oui, mais c'est pas que c'est égal. Ils sont un peu tous pareils. Ils ont, les filles ont le même chapeau. Les garçons, une espèce de... On dirait que c'est du papier sur la tête. Et ce qui me frappe, c'est certains enfants ont des baluchons. Qu'est-ce qu'ils avaient mis là-dedans? Je ne sais pas. Oui, ma mère, notamment, elle a un gros baluchon, là, au centre. C'est... Voilà.
Tu veux agrandir?
Non, ça fait...
Non, ça va,
oui.
D'accord. C'est cool.
Alors, on voit ma mère, ouais. Ouais, là, elle est au milieu. C'est pas... Elle a même deux baluchons dans les bras. C'est très... Voilà. Alors, on a la photo de groupe...
Cette pasteur à droite ?
Non, je crois que c'était le professeur, un des instituteurs, mais M. Béguian. Non, c'est pas Anthony Krav Bonnard, non. Oui, alors si on revient au pasteur Krav Bonnard, effectivement, le pasteur Krav Bonnard a exercé son ministère à Genève et puis à Benin. Et quand ses enfants sont arrivés, donc à partir de 1922, il a abandonné tout son travail de pasteur, et il s'est dévoué entièrement aux enfants. Ça, c'était aussi... Alors, il faut dire que la tâche est immense. Le niveau de ses enfants n'est pas tous le même, mais enfin, quand je pense à mes parents n'avaient pas de langue. Ils avaient entendu, ils parlaient peut-être, ils avaient entendu de l'arménien, bien sûr, mais très très peu, puisque mon père et ma mère étaient tous les deux des bébés au moment de la déportation. Voilà. Et puis du turc, bien sûr. Mais ils n'ont jamais su parler le turc après. Alors de grec, effectivement. Ma mère prétendait qu'elle savait le grec, mais voilà. Toutes ces langues s'effacent au fur et à mesure. Donc il n'y avait vraiment rien, en tout cas pour mes parents. Peut-être que ce n'était pas le cas de tout le monde. Alors que faire? Alors à la base... Le pasteur Krapona a une idée extraordinaire. C'était de donner une éducation arménienne à ses enfants. Il avait l'idée qu'ils allaient repartir, donc former une élite pour qu'ils puissent repartir dans leur pays avec une formation. Bon, c'est bien que ça n'était pas possible. Il s'est bien rendu compte que les retours n'étaient pas possibles. Donc, oui, c'est surtout ce traité de Lausanne qui mettait fin à un retour possible. Puis on ne savait pas du tout que l'Arménie allait devenir une petite république soviétique. Et on pense à... Après la guerre, donc, bien sûr, il y a des Arméniens qui sont rentrés. En 1947, l'appel de Staline pour repeupler la République d'Arménie, effectivement, beaucoup d'Arméniens sont revenus. Mais en tout cas, pas nos parents. Donc, les parents, les enfants réapprennent leur propre langue, leur culture, leur tradition. Alors, comment est-ce que le pasteur Krapona a fait pour avoir tous ses instituteurs qui pouvaient transmettre tout ça? Ça a été aussi un point d'interrogation. Alors, peut-être qu'on va montrer la photo de la classe. Alors, ah oui, pardon. Voilà, une vue d'un bâtiment de l'école de Venir, mais il y avait d'autres maisons aussi. Et ils ont été très, très, très heureux à Bonia. C'est des années tout à fait exceptionnelles dans la nature. Ils avaient un jardin, ils cultivaient leurs fruits, leurs légumes. Ils étaient très encadrés. L'école, le refuge, enfin voilà. Je crois que c'était ça. Alors, pour l'école de Bonia, j'aimerais vous parler de trois femmes qui ont marqué les orphelins de Bonia. Peut-être qu'on va montrer dans une vue de la classe. Voilà, annonce. Ah oui, oui, pardon.
Tu veux passer ? Excusez-moi.
Voilà, alors ça, c'est vraiment tout le groupe. Je ne sais pas si la photo a été prise peut-être en 1927. Voilà, il y a vraiment tous les enfants, les enseignants. On a pensé que M. Krapona était là au centre.
C'est lui ?
Oui. Voilà, tout le groupe. Et puis la classe, peut-être. Elle est à point là. Voilà. Alors, une vue d'une classe. Ma mère est au premier rang, là. La petite fille qui écrit. Voilà la classe. Oui, alors je peux vous parler de ces trois femmes exceptionnelles. D'abord, je vais vous parler d'Elisabeth Zorian. On a le privilège de saluer M. Charles Maire, qui est parmi nous, et M. Charles Maire, qui a été conseiller d'État ici, à Genève, est un arrière-petit-fils, juste, d'Elisabeth Zorian. Merci d'être là. Elisabeth Zorian était originaire du Karabakh. Elle est venue à Genève faire ses études. Vous me corrigerez si je me trompe. Donc, elle a fait des études à Genève. Et c'est vrai qu'au tournant du... Elle est née, oui, je voulais vous donner quand même sa date de naissance, 1878, si je ne me trompe pas, c'est ça, 1878. Et c'est vrai qu'au tournant du siècle, il y a beaucoup de... L'accueil à Genève, dans les milieux estudiantins, beaucoup d'étudiants, aussi des révolutionnaires russes, arméniens qui sont là. Elle fait des études brillantes. Elle fait la connaissance d'un révolutionnaire arménien, M. Zorian, qu'elle épouse et, à Tbilissi, en Géorgie. Et, ensuite, elle revient à Genève, elle fait un doctorat en sciences en 1920, ce qui était absolument exceptionnel. Une femme étrangère qui fait un doctorat à l'Université de Genève, c'était remarquable. Donc, dès 1922, elle enseigne à l'école de Bonien l'arménien, sa propre langue, les mathématiques, les sciences. Et elle a une fille qui s'appelle Takoui, qui veut dire reine. Takoui est une artiste et elle épouse un monsieur Charlebert qui est un réfugié hongrois. Elle enseigne, elle, le dessin, les arts, la peinture à Bonien. Et la troisième de ces dames exceptionnelles, dont nous avons la petite fille ici, dans la personne d'Armen Sakian, violoniste. Merci d'être là, Armen.
Si je peux juste glisser un petit
mot. Oui.
Sur ma grand-mère, qui était vraiment une femme exceptionnelle. Elle était instruite, elle avait 4 enfants. Son mari était mort de la Vallée du Soleil à Constantinople. Et elle était dans le orphelinat. Et voilà, tout s'est décidé subitement. L'orphelinat ferme ses portes, continue son action en Suisse pour devenir cet orphelinat. Et donc a proposé à tout le personnel, dont ma grand-mère faisait partie, qui avait 4 enfants, de gagner de l'argent et se débrouiller comme elle pouvait. Et donc elle a tout de suite sauté le choix et ils se sont préparés. Il y avait pas des enfants qui étaient dans les orphelinats. Et alors c'était une femme veuve, oui, mais très gaie, une femme moderne, qui était en plus très belle, et elle avait un talent particulier pour la jeunesse.
Merci Armen de ces précisions. Je pense que tu viens de le dire, mais je n'ai pas tout saisi. Donc les orphelins, les enfants de Bonien appelaient Armen Ouistakian Mayrig, qui veut dire donc maman en arménien. Comme ils appelaient le pasteur Kraft Bonnard, Papa Kraft. Et ce mot Kraft devait donner de la force. Hein, Kraft en allemand. Merci. Donc, le pasteur Kraft Bonnard a non seulement offert un refuge, mais refuge dans ce sens du réfugié, du déporté, de celui qui n'a plus rien, mais vraiment rien, pas d'identité. Il leur a donné donc une nouvelle dignité, oui, un espoir. Bon, je pense que quand on est enfant, on ne perd pas espoir. Il y a cet instinct de survie qu'ils avaient dès le début de leur existence, qui leur a permis de continuer, ça c'est clair. Mais il leur a donné cette force, force de dépasser la fracture qu'ils avaient vécue, même si elle est là, elle est toujours là, aussi, chez les descendants. Voilà, donc, l'école de Beugnien, c'est une école primaire. Ça s'arrête à 15 ans. 15-16 ans, voilà, il faut partir. Et ça a été difficile. J'ai souvent entendu mes parents dire comme ils regrettaient la vie à Beugnien quand ils sont dû arriver à Genève. Alors, Pasteur Kraft-Bonnard avait aussi réussi à acquérir une maison au chemin du Velours. Et la vie était plus difficile. Ils ont continué leur formation selon les compétences, les goûts, les envies. Après des études secondaires, certains ont pu faire des études universitaires. C'était remarquable. D'autres, des formations professionnelles. Enfin, ils ont suivi des voies. Mais on était à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. C'était très, très compliqué. Pour ces enfants sans papier, c'est... Voilà. Mais jamais de plainte. Je n'ai jamais entendu mes parents dire « Ah, c'est pas juste, c'était ci, c'était comme ci, c'était comme ça. » Au contraire. Une très, très, très grande reconnaissance à l'égard de la Suisse. On devait tout à la Suisse. Donc, voilà. Ensuite... ce qui m'a aussi frappée, j'ai fait un choix parce que c'était un petit peu compliqué, je ne veux pas trop insister, mais lorsque la maison au chemin du Velours a été inaugurée, et ça je m'excuse, j'ai oublié de noter la date, mais à l'inauguration de ce foyer, le pasteur Kraft-Bonnard a invité le fameux diplomate explorateur norvégien Fridtjof Nansen, dont nous avons déjà entendu parler. Je trouve que cette invitation avait quelque chose de très symbolique, parce que Nansen représentait aussi une identité pour les orphelins. Donc, ils étaient tous détenteurs d'un passeport Nansen qui leur a permis de... se déplacer, enfin, ils ne pouvaient pas tellement se déplacer. Une fois qu'on était en Suisse, il fallait chaque fois un visa pour aller à Annemasse, acheter un livre, etc. Mais c'était une identité que Fridtjof Nansen donc, a eu l'idée de lancer à la tribune de la Société des Nations à l'époque. J'ai trouvé que ça, c'était assez intéressant. Et puis, les années 30, les dons diminuent, il y a de moins en moins d'argent, de plus en plus de problèmes pour Kraft-Bonnard de maintenir cette maison, d'entretenir ses enfants, ses jeunes-là. Il y a des moments d'angoisse, des moments d'espoir, mais voilà. Kraft-Bonnard se sent au bout de son œuvre et puis il l'a accompli jusqu'à la fin. Il est arrivé au bout. Puis c'est vrai que les problèmes physiques et psychiques de certains de ces jeunes le préoccupaient beaucoup. Je vais arriver au bout. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. C'est vrai que le pasteur Kraft-Bonnard a eu aussi la chance de compter sur toute sa famille. C'était un soutien très important pour lui, ses enfants, sa femme. Mais il est tout à fait conscient que c'est la fin. Ses forces à lui aussi diminuent, il est malade. Et des épreuves personnelles comme la perte de sa fille cadette, Hélène, en 1943. Il perd aussi son épouse en 1944. Alors, une note un peu plus gaie, c'est qu'il a marié mes parents. Il m'a même baptisée encore, oui. Je ne sais pas. Peut-être que mes attaches à l'église protestante s'expliquent aussi. Je ne sais pas. C'était une parenthèse. Et il va mourir quelques mois plus tard, le 14 octobre 1945. On a beaucoup parlé de l'Arménie, de ses souffrances, de la fin de l'Arménie. Eh bien non, l'Arménie a survécu. Et il faut garder l'espoir, malgré toutes les menaces de ce petit pays enclavé là-bas, un peu perdu, un peu abandonné, mais qui garde une force extraordinaire. Si vous avez l'occasion d'y aller, malgré tout, ça vaut la peine. Alors maintenant, je veux dire simplement merci au pasteur Kraft-Bonnard, merci à la Suisse, merci à Genève.
Et qui, comme vous dites, s'inscrit merveilleusement dans cette plus grande histoire. C'est une aventure extraordinaire, un témoignage d'humanisme exceptionnel. L'action du pasteur Anthony Kraft-Bonnard est même au-delà de l'humanisme. Est-ce que, comme vous l'avez rappelé, à ses enfants qui n'avaient pas de date de naissance, qui n'avait pas de langue, qui n'avait pas d'identité. Il a donné tout. La langue, l'identité, l'accueil, la chaleur humaine. Et c'est tellement extraordinaire de penser que son action, son œuvre allait au-delà de l'humanisme. Il ne pensait pas seulement d'accueillir ses enfants, ses orphelins arméniens. Il pouvait bien penser qu'il les accueille, qu'il les assimile, et après le travail sera fini. Mais de faire venir, de trouver les meilleurs professeurs de langue, d'histoire, de littérature arménienne pour former une élite prochaine de cette Arménie décapitée dans l'espoir que demain, il retrouverait son indépendance et que ce pays avait besoin de retrouver ses élites. C'est extraordinaire, incroyablement bouleversant. Et je pense que vos parents et tous les descendants de ces orphelins ont fait preuve d'une résilience, d'une résistance, d'une force extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est au nom aussi de l'Arménie que je m'incline devant leur mémoire, leur action, cette œuvre que vous rappelez qui allait bien au-delà des paroles et qui, une fois de plus, je tiens à souligner, à le répéter, constitue une extraordinaire page d'amitié entre les peuples arméniens et suisses. Un très grand merci. Et l'action du pasteur montrait justement que ces traditions arménophiles, philanthropes, ne se résumaient pas seulement à Genève. Il allait aussi au canton de Vaud, mais aussi au-delà, parce qu'on connaît aussi d'autres pasteurs, aussi dans la partie suisse alémanique, qui s'était engagée aussi dans le sauvetage des orphelins arméniens. Un très très grand merci.
Merci à vous.
Et maintenant, je souhaiterais inviter notre dernier intervenant qui clôturera cette séquence. Donc, monsieur Harry Kungouyan, qui naît à Genève de parents arméniens, ayant fui les massacres de l'Empire ottoman, porte en lui un héritage marqué par l'exil et la résilience, qui a su mettre au service de l'éducation et de la littérature. Après des études secondaires en Suisse et aux États-Unis, il obtient 816 lettres à l'Université de Genève. Il consacre ensuite l'essentiel de sa carrière à l'enseignement et à l'administration de l'instruction publique genevoise, où il occupe successivement les fonctions d'enseignant, de directeur de collège, de responsable des ressources humaines, de suivi d'orientation et de collaborateur d'un conseiller d'État. Parallèlement, M. Kungouyan cultive une vocation littéraire, inscrit à un atelier d'écriture à New York et débute en anglais avant de poursuivre son œuvre en français. Il est l'auteur de plusieurs romans publiés aux éditions de l'Air, parmi lesquels En si dangereux silence, L'impératrice des Indes, Courir dans les vagues et Vienne le 12 mars 1938. Il écrit également pour la jeunesse,
Ses nouvelles sont publiées dans les revues et ouvrages collectifs. Il prête aussi sa voix à la bibliothèque pour personnes malvoyantes. Monsieur Combrouillant a présidé la Société genevoise des écrivains et demeure toujours un membre actif de l'Union des écrivains arméniens. C'est avec un immense plaisir que je vous donne la parole.
Merci Madame l'ambassadrice, merci aux organisateurs de ce colloque de l'avoir prévu cet après-midi et merci à vous toutes et à vous tous d'être là aujourd'hui. Alors mon petit exposé s'intitule « Mémoire, transmission et identité ». Alors l'identité de chacun, vous le savez, l'identité de base, c'est notre caractère, c'est la manière dont nous avons été élevés, les circonstances sociales et financières, les circonstances géographiques qui ont fait qu'on est ce qu'on est. Et puis, il y a ce qu'on nous a transmis, la mémoire, les choses qui concernent nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. Il y a ce qu'on nous a transmis, puis il y a ce qu'on a compris, ce qu'on a déformé, ce qu'on a oublié. Et puis, dans le cas des Arméniens, ce qu'on nous a transmis a souvent été interrompu. Pour une raison très simple, c'est que nos parents, nos grands-parents n'ont pas nécessairement eu envie de nous raconter tout ce qu'ils avaient vécu. En tout cas, c'était le cas pour mes parents. Ils étaient arrivés en Suisse, comme Nevard vient de le dire, au foyer de Bunyan. Et pour le faire très court, la Suisse, c'était le paradis d'ailleurs. Tu as employé le mot. La Suisse, c'était le paradis, donc on n'a pas à commenter ce qui vient avant le paradis. Voilà, on vit dans le paradis, et chez nous, on était plus Suisse que le servant. C'est très simple. Donc, pas question d'émettre la moindre critique sur ce beau pays. Tout était absolument parfait. Et ma mère, à la fin de sa vie, a commencé à raconter des choses, mais de façon vraiment très limitée. Elle a été interrogée 4 fois par des étudiants qui faisaient un travail sur l'Arménie. On commençait à en parler plus souvent des massacres dans l'Empire ottoman, de ce qui s'était passé. Et les 4 fois où elle a été interrogée par des étudiants qu'elle ne connaissait pas, mais qui avaient eu son nom par ricochet, elle m'a demandé d'être présent. Et je lui disais, mais c'est toi qu'on va interviewer, c'est pas moi. Elle me disait, oui, mais tu te mets là dans un coin et tu écoutes. Et là, elle a commencé à raconter des choses qu'elle ne m'avait jamais dites. Ça m'a beaucoup bouleversé parce que je me disais, mais elle sait et elle ne l'a pas dit. Et maintenant, elle commence à le dire. Elle était vraiment très âgée. On lui demandait aussi parfois pourquoi elle n'avait pas raconté son histoire à son petit-fils, donc à mon fils, à moi. Elle disait, non, je ne veux pas lui raconter, ça va lui faire de la peine. C'était bien plus fort que ça. D'ailleurs, Adrien, mon fils, a fait des études d'histoire, notamment s'est intéressé à l'histoire de l'Empire ottoman. Donc, tout se rattrape. Une autre manière de se rattraper, très récemment, il y a 3 ans à peu près, mes cousins et moi, donc mon oncle et mon père, qui étaient au foyer de Bunyan, nous recevons un message de San Francisco, d'une dame très âgée, qui nous raconte qu'elle vient de trouver dans un carton le journal intime de sa mère. Et cette maman était contemporaine de mon oncle et de mon père et était au foyer de Bunyan. Donc on a tout d'un coup, alors qu'on pensait ne plus jamais entendre parler de façon concrète de ce qui s'était passé à Bunyan, on a tout d'un coup un témoignage que cette personne qui s'appelle Alice a traduit en anglais et on commence à découvrir des choses qu'on ignorait. Et mes cousins et moi, on riait jaune en disant « les morts reviennent » en quelque sorte. Et c'était très troublant. Alors, il faut dire que sur les documents de voyage, il y avait une formule qui était très claire, c'était « sans retour possible ». Et je crois que ce « sans retour possible », c'est une forme d'immigration qui est différente d'une immigration, par exemple, des gens qui ont fui le Chili ou l'Argentine au moment des colonels et qui pouvaient toujours une fois rêver que le pays se transforme et qu'ils puissent y revenir. Pour nous, c'était impensable. Donc, voilà, on n'allait pas y rentrer. Donc,
Une des conséquences de cette attitude, c'est que mes parents, qui parlaient arménien entre eux, ne m'ont pas parlé l'arménien. Donc je suis là à essayer de baragouiner l'arménien à l'époque avec ma grand-mère. Je le baragouine toujours, je le baragouine mal, et c'est une frustration permanente. Alors j'en ai beaucoup voulu à mes parents, en même temps je comprends les raisons psychologiques qui faisaient qu'il fallait privilégier le français et un peu oublier l'arménien, mais je le regrette beaucoup, au point que l'autre jour, je trouve, je ne sais pas comment, dans mon téléphone, un début de cours de néerlandais. Et j'écoute cette leçon de néerlandais, puis une deuxième, puis une troisième, et je me dis, mais je comprends mieux le néerlandais que l'arménien, c'est pas possible, cette histoire. Voilà. Alors j'essaye de prendre des leçons, je suis pas un très bon élève, mais j'essaye de prendre des leçons, parce que quand je vais en Arménie, c'est quand même une espèce de frustration d'être dans le pays qui est le mien, sans tout à fait être le mien, mais quand même le mien, et de ne pas pouvoir m'exprimer au-delà de quelques phrases simples. Non, c'est un peu plus que ça, mais c'est pas beaucoup plus, malheureusement. En même temps, indépendamment de la langue, évidemment, on a une transmission culturelle. Et cette transmission culturelle, chez moi, elle est très forte. Les Arméniens sont des résistants, vous l'avez entendu toute la journée, et cette forme de résistance, c'est un cadeau très précieux, parce qu'on apprend à lutter dans l'adversité, on apprend aussi que les choses ne sont pas données pour toujours, que demain, après-demain, l'équation peut tourner. Donc c'est une force qui est précieuse et à laquelle je tiens. Donc évidemment, dans un monde idéal, j'aurais un puzzle plus ou moins complet, mais vous l'avez probablement pas, vous non plus, pour votre famille, donc je vais pas être jaloux, mais vous pouvez avoir un puzzle qui vous donne quand même une idée un peu plus précise que les trois seules photos que j'ai de mes grands-pères morts dans le génocide. Et cette rupture, cette volonté permanente de la part de l'État turc de nier les choses, c'est évidemment extrêmement pénible à supporter, encore aujourd'hui, parce que je me dis, mais on tue les gens et après on nie qu'on les a tués, en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment, sans faire du misérabilisme, c'est assez pénible. Il m'arrive, pour être tout à fait sincère, d'avoir l'attitude inverse, c'est-à-dire de me dire, mais au fond, tout ça, c'était il y a 100 ans, moi je suis né à Genève, je suis suisse, mon fils est né ici, tournons la page. Mais je me dis ça pendant 5 minutes. Et les 5 minutes plus tard, je me dis, ah non, 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 je ne vais pas lâcher cette corde-là. Elle me tient, et j'y tiens, et je vais la garder précieusement dans la main. Alors, quand je suis allé en Arménie la première fois, c'était en 2001. La date est importante, parce que c'était exactement, hasard ou pas, 1700 ans après l'introduction du christianisme en Arménie. Donc, c'était une date majeure, en quelque sorte. Alors, j'arrive en Arménie, et j'ai encore une fois ce sentiment, ou pour la première fois, ce sentiment de connu, pas connu, familier, pas familier. C'est pas un pays étranger, mais c'est pas mon pays. Donc, c'est vraiment une espèce d'oscillation permanente qui est intéressante, qui vous bouleverse, qui vous fait réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire de ça ? Alors je suis rentré après un voyage de 15 jours avec la famille Nigolian que je salue et je commence à lire beaucoup de choses sur l'Arménie que je connaissais au fond pas. Des livres d'histoire, des livres de poésie, j'étais très bouleversé par tout ça. J'essayais de comprendre. L'histoire de l'Arménie, c'est quand même compliqué quand on le prend sur les millénaires. J'avais par exemple un bouquin avec des cartes de géographie. Il y avait 20 cartes de géographie qui se succédaient et qui variaient chaque fois. Donc j'essayais de comprendre comment elles se succédaient. Et à un moment donné, j'avais envie de témoigner. Mais témoigner de quoi ? Faire quoi ? La question se posait. Et c'est là que ça me traversait l'esprit, mais je n'avais pas d'idée concrète. Après ma vie passionnante au département de l'instruction publique, je suis allé à New York et j'ai suivi un atelier d'écriture. Je travaillais avec une jeune femme, j'écrivais des nouvelles en anglais parce que c'était une Américaine, et au bout d'une dizaine de nouvelles, j'introduis, sans même y réfléchir, un personnage arménien. Et elle me dit, elle lit la nouvelle, elle ne savait rien de mon histoire, et elle me dit, mais ça c'est intéressant, vous devriez écrire un roman. Je me suis dit, mais moi je ne peux pas écrire un roman en anglais, des nouvelles éventuellement, mais non, c'est pas ma langue maternelle. Non, non, non. Alors j'écris un... J'ai suivi le conseil, j'ai pris ces nouvelles, et j'en ai fait un roman. Et ce roman s'appelle, comme par hasard, « Un si dangereux silence ». Bon, alors le roman terminé, je l'envoie à un éditeur, Michel Moret, aux éditions de l'Air. 15 jours après, il me convoque, il me dit « Mais oui, votre roman, alors je vais le prendre, allez, on le publie ». Bon, très bien. Le roman a été publié et il a été traduit. Il a été traduit en arménien d'abord, grâce à la Fondation Arménien, que je remercie au passage. Et ce roman se trouve dans les librairies de Yerevan et peut-être même dans d'autres villes d'Arménie. Et je dois dire que quand je vois le roman sur les rayons d'une librairie à Yerevan, ça me fait un tout autre effet que quand je le vois chez Payot ici. Ça me bouleverse pas mal. Alors, il est écrit en arménien, je ne peux pas lire, donc j'ai l'air complètement stupide. Mais bon, voilà, un moment de honte est vite passé. On a même eu un lancement à Yerevan, et je disais à la traductrice, ne me quittez pas, parce que l'auteur illettré, c'est quand même pas un rôle très agréable. Enfin, ce roman est traduit, et ce roman fait l'objet en ce moment d'un travail de mémoire de licence, par une jeune femme qui est dans une des universités d'Yerevan. Et c'est-à-dire, bon, elle le fait en français parce que son mémoire est en français, mais elle peut utiliser la traduction et ça me touche beaucoup. Ensuite, il a été traduit en anglais aux États-Unis et maintenant il est traduit en russe. Alors ça pose un autre problème parce que la traductrice russe que j'ai de temps en temps par Zoom, elle me dit « Ah, mais vous viendrez à Moscou, on fera un lancement ». Je dis « Je ne suis pas sûr qu'en ce moment, ce soit une bonne idée ». Donc voilà, c'est les aléas de la littérature. Parfois, ça vous réserve des surprises. Mais disons, ma fierté avec les personnages de ces romans, et il y a toujours un personnage arménien dans mes romans, même quand le roman se passe à New York, même quand le roman est fait pour les enfants, il y a toujours un personnage arménien. Et j'avais pas vraiment décidé de faire ça, mais malgré moi, il y a un personnage arménien qui arrive. Il arrive sous ma plume, enfin, dans mon ordinateur, je devrais dire. Et ces personnages arméniens, j'y tiens beaucoup. Parce que c'est ma manière à moi, très modeste et un peu dérisoire, mais c'est ma manière à moi de rendre compte de mon arménité. J'avais une fois une discussion avec mon éditeur, décédé malheureusement depuis, et une de mes collègues écrivaine chez le même éditeur. Cette personne qui s'appelle Madeleine Knecht a des valises, mais littéralement des valises de documents sur sa famille. Une famille qui a voyagé dans le monde entier, et elle a écrit un livre, en vidant les valises et en trouvant toutes les informations. Puis au bout d'un moment, quand elle racontait ça, je disais, mais vous avez beaucoup de chance, moi je n'ai rien du tout de tout ça. Je n'ai rien. Et là, l'éditeur m'a regardé, m'a dit, oui, mais vous avez votre imagination, alors allez-y. Alors l'imagination, c'est bien, mais il faut quand même que ça repose sur certaines choses qui soient un peu solides. Donc là, je suis en train d'écrire un roman. J'ai la prétention de situer le roman en Arménie pour la moitié du texte et j'ai l'impression de faire du patin à glace sur une couche de glace un peu fine. Parce que si je dis des âneries, ça ne va pas passer. Si je dis des âneries à Genève, et j'en ai dit parfois, et qu'on me fait des remarques, on m'envoie des photos en disant c'est imprécis, c'est pas juste, ça m'est complètement égal. Enfin, j'écoute ça avec intérêt, mais ça m'est assez égal. Si je commence à dire des âneries sur l'Arménie, là, ça ne me sera pas égal, parce qu'on va me le reprocher, on va me le reprocher autrement. Donc c'est une gageure, mais c'est une gageure que j'aime bien maintenir. Et c'est ma manière à moi, encore une fois, de vivre mon arménité. Alors, d'autres feraient du travail humanitaire, d'autres feraient des conférences, j'en fais aussi. Mais disons, c'est une façon très importante pour moi de témoigner. Et j'aimerais aussi vous dire que j'ai eu l'occasion de rencontrer un auteur pour lequel je vais faire de la publicité, qui s'appelle Michel Petrosian, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Le chant d'Artsakh », qui raconte l'histoire du Karabakh. Michel Petrosian est un compositeur de musique. Son opéra, le livre de Job, va être monté au mois de juin à la Cité Bleue. Et vous trouverez sur la table, au fond, à côté de mes livres, vous trouverez le petit catalogue, le flyer, comme on dit en français, qui raconte la venue de Michel avec son opéra. Et je crois que c'est important de pouvoir soutenir un compositeur arménien actuel qui vit en France. C'est un type extraordinaire. Il est arrivé en France, il avait 17 ans et il parle un français impeccable. Voilà comment la littérature et la musique et la culture en général nous aident à traverser le temps et nous aident aussi à affirmer notre identité. Et je crois, alors c'est une petite remarque poivrée, mais j'aimerais la faire, je crois qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles les Arméniens ont tant d'ennuis dans la région où ils sont, des raisons géopolitiques qui ont été très bien expliquées par des gens plus compétents que moi aujourd'hui, mais c'est aussi une espèce d'envie comme ça qu'ont nos voisins par rapport à ce peuple qui, depuis des millénaires et des millénaires, se maintient et affirme sa langue, affirme son alphabet, affirme sa culture. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus important que jamais. Voilà. Je vous remercie beaucoup.
Ok, c'est pour... Très bien, ça on n'en a pas besoin. Donc d'abord, merci pour tous les intervenants. Ça va être extrêmement difficile de faire une synthèse, n'est-ce pas? Mais je vais prendre quelques points et insister. Peut-être on aura l'occasion de réfléchir sur ces questions dans le futur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous étiez là le matin, Maxime Yevadian, qui vient de partir parce qu'il a un train à prendre, il a d'abord commencé par un tableau très différent comparé avec les autres qui ont suivi. Donc Maxime, il a présenté les Arméniens de l'Empire ottoman. Il a insisté que c'était des gens très intégrés dans le système. C'était d'abord des gens qui vivaient à Constantinople. En fait, les Arméniens ne sont pas une communauté à la marge de l'Empire ottoman. Ils étaient au centre de l'Empire ottoman. À partir de la prise de Constantinople par Mehmet Fetih, donc en 1453, il amène les Arméniens pour peupler Constantinople. Bien sûr, il y avait une présence arménienne même avant. Donc, à partir de là jusqu'à l'arrivée des nationalistes turcs, les gens turcs, Istanbul a toujours au moins 20% des Arméniens. Et comme Maxime l'a présenté, ils sont très actifs dans l'industrie de l'Empire ottoman. En fait, extrêmement stratégiques. Pour vous donner un petit exemple, quand les sultans Mahmoud le II et Abdulmejid, ils voulaient industrialiser l'Empire, en commençant par une industrie militaire, ils ont confié le projet à une famille arménienne, les Dadian. Donc, et après, Maxime, il a parlé des Baliennes, c'est cette dynastie qui était les architectes des sultans, hein, tous les palais des sultans du 19e siècle, même avant, 18e, 19e, sont construits par des différentes membres de cette famille Balian. Donc au niveau de collaboration avec les sultans, ensuite, on a vu les Abdullah frères, trois frères photographes qui étaient les photographes attitrés du sultan. Le sultan Abdulhamid qui a massacré les Arméniens. En même temps, le même sultan Abdulhamid, tous ses conseillers financiers, tous ses ministres de la finance étaient des Arméniens. Donc là, on a une image où ces Arméniens ne sont pas des étrangers. C'est des gens qui ont vécu avec les Turcs pendant des siècles. Mais après, quand on a passé à Garabed et Yelegen, ici, on a raconté une autre histoire. C'est une histoire des massacres. Bien sûr, après Raymond Kevorkian, il a couvert la période du génocide. Qu'est-ce qui se passe là? C'est intriguant. Je ne sais pas si pour vous, c'était évident qu'on a passé d'une image à l'autre sans explication. Donc là, je ne veux pas prendre le temps pour faire un cours d'histoire de l'Empire ottoman, mais simplement, il faut dire que avec l'arrivée du nationalisme turc, même avant, avec l'arrivée de Abdulhamid, il y a un changement au niveau du politique. L'Empire est en crise, mais ils veulent moderniser l'Empire ottoman, mais ils veulent moderniser en éliminant la bourgeoisie de l'Empire, en éliminant les banquiers, les sarrafs, en éliminant les gens qui faisaient l'industrie, en éliminant les architectes, en éliminant les photographes. Donc, est-ce que ça ne nous mène pas vers le XXe siècle, tout droit? Est-ce que ce n'est pas l'histoire de l'humanité, quelque part, qui commence très mal au début du XXe siècle? Quand Raymond Kevorkian était en train de parler et analyser les différentes phases du génocide, d'abord l'arrestation des jeunes qui servent dans l'armée, 20-40 ans, l'élimination des intellectuels, après déportation, on est aussi en train de revivre certains aspects de ces horreurs aujourd'hui en Europe de l'Est, dans le Moyen-Orient. Et ça nous pose des questions sur la relation de l'être humain aujourd'hui avec l'histoire, avec la mémoire. Est-ce qu'on a vraiment tiré les leçons nécessaires de l'expérience du XXe siècle pour recommencer une 21e siècle avec des guerres qui nous rappellent la Première Guerre mondiale, mais aussi, surtout, avec ce qui se passe à Gaza? Ça me bouleverse. Je ne sais pas comment vous pouvez vivre cette réalité où un peuple qui a survécu l'Holocauste est en train de faire les horreurs de Gaza. Donc ça pose des questions très profondes sur nous, qui sont des questions très difficiles aujourd'hui à répondre. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans des contextes très difficiles aujourd'hui? Je pense qu'on peut faire, c'est revisiter ces personnages extraordinaires qu'on a entendu leur biographie. Léopold Favre, Gustave Adorf, Krafft Bonnard et les autres. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut tirer les leçons pour dire que même si autour de nous c'est la folie, même si Vladimir Poutine il décide de faire une guerre et massacrer les Russes et les Ukrainiens qui habitent à Donetsk, à Donbass et ailleurs, donc quelle folie. Même si les Américains pour la deuxième fois ils ont élu Donald Trump. Donc, même si les temps sont difficiles, même si les relations internationales que j'ai apprises ici à Genève et j'enseigne à l'université ne nous aident pas pour comprendre la politique internationale, on peut descendre du grand politique et au niveau humain, on peut être engagé comme ces personnages qu'on a vus, qu'on a entendus, qu'on a revisités aujourd'hui, ils l'ont fait. Mais aussi, il y a une autre dimension qui est très importante, c'est la dimension culturelle et artistique. Malgré toutes les difficultés, on peut retravailler cette mémoire très difficile, qui est la mémoire des Arméniens, mais pas seulement, à travers des artistes comme Sarkis Khachaturian, que je ne connaissais pas, et je suis curieux de découvrir les œuvres et l'histoire de ce personnage qui est né à Malatya. Et si vous connaissez Malatya, c'est la ville où Hrant Dink est né. Et quand j'ai visité la ville de Malatya il y a 12 ans en arrière, il y avait encore quelques maisons arméniennes qui survivaient. Et je pense, entre-temps, ce quartier est rasé et la mémoire des Arméniens de Malatya s'est terminée sur place, mais survit à travers des œuvres artistiques, mais aussi à travers l'écriture, à travers des colloques comme ça. Et une autre source d'espoir, c'était mentionné, c'est les archives que Aram Andonian a collectionnées et qui se retrouvent aujourd'hui dans la bibliothèque Noubar à Paris. Et on a besoin des centres comme ça, des archives. Et je ne sais pas si pour vous c'est possible d'imaginer la difficulté d'une communauté diasporique d'avoir des centres d'archives, les difficultés. Parce qu'aujourd'hui, on a la difficulté de préserver les archives de Andonian à Paris. Ça coûte énormément et au niveau technique, c'est très difficile. Mais aussi, on a toute la difficulté de créer des archives, des écrivains, des lettres, des manuscrits, des gens qui sont en train de partir, qui ont accumulé. Et surtout, pas seulement ils sont en train de partir parce que c'est le cycle et il y a des générations qui sont en train de partir, mais aussi parce que les Arméniens sont en train de déménager. On a entendu des villes comme Alep, comme Damas, comme Beyrouth, comme Bagdad, comme Mossoul, où dans le passé, il y avait des Arméniens. Mais ils sont en train de partir. Et toute la mémoire de ces villes, d'une vie, on peut les préserver à travers les archives, mais on n'a pas les moyens pour le faire. Mais heureusement, il y a la bibliothèque Noubar à Paris. Mais on en a besoin d'autres. Maintenant, j'aimerais bien conclure quand j'écoutais Roger Durand sur la vie de Léopold Favre. J'étais vraiment impressionné qu'il a voyagé 9 fois, c'est ça, dans l'Empire ottoman, en Cilicie, en Anatolie, en Arménie historique. Et ça m'a fait penser au film de Robert Guédiguian, Voyage en Arménie. Donc je vous invite de voir le film, et même je vous invite à voyager en Arménie. Malgré toute l'histoire de très lourd hein, des massacres et du génocide, c'est un pays magnifique où on sait comment vivre, comment manger, comment boire du vin et comment faire la fête. Merci beaucoup.